Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Histoire au quotidien. Nous sommes toujours dans la thématique de la gallo-romanité. Nous avons vu ce qu'était peut-être un gallo-romain, ce qu'était la gallo-romanité, la première phase de la romanisation du territoire de la Gaule. Nous allons voir maintenant une seconde phase, c'est l'organisation romaine de la Gaule. Après la conquête justement du territoire gaulois par Jules César, le territoire est réorganisé par l'empereur Auguste. Pour mieux gérer l'espace gaulois, il met en place une nouvelle organisation administrative. Il divise la Gaule en 4 provinces, dont 3 nouvelles, ce qu'on va appeler les 3 Gaules, toutes administrées par Rome. Au sud, nous avons la Provincia, ou si vous voulez, la Narbonnaise, et son administration est confiée au Sénat. Le reste du pays est partagé entre l'Aquitaine, qui englobe tous les peuples de la Garonne jusqu'à la Loire, la Lyonnaise, qui s'étend entre la Loire et la Seine, incluant la Normandie et l'Armorique, et enfin la Belgique, qui comprend tout le nord et l'est de la Gaule. Ces provinces sont elles-mêmes subdivisées en une soixantaine de cités, ou civitates, approximativement calées sur le territoire des anciennes tribus gauloises. De même, les campagnes et le monde rural s'organisent autour de villae, où le travail et la vie agricole se hiérarchisent peu à peu. Ces véritables domaines ruraux, on le verra plus tard, regroupent les habitations des propriétaires et de la main-d'œuvre, ainsi que des bâtiments d'exploitation et de fabriques artisanales. Au centre de ce dispositif administratif se trouve Lugdunum, la capitale des Trois Gaules, c'est-à-dire de la Gaule belge, de la Gaule lyonnaise, je le répète, et de la Gaule belgique. Lugdunum est un ancien site celte. Son nom vient de Lug, le dieu celte de la lumière, et Dunum, qui veut dire forteresse. Le site deviendra une colonie de droit romain sous le nom de Colonia Copia Felix Munatia Lugdunum, un nom un peu compliqué pour une colonie. Auparavant, il y avait déjà un site urbain mal identifié, un site urbain gaulois, qui portait le nom de Condate. Ce terme veut dire confluent ou confluence. Mais la cité va, elle, être installée sur le plateau de Fourvière et des vétérans, encore eux, de l'armée romaine y seront installés. La toute jeune cité romaine bénéficie d'un emplacement de premier plan puisqu'elle se trouve au cœur du réseau routier dit d'Agrippa. Grâce à sa position au croisement des routes romaines, la cité se développe. Et n'oublions pas, elle est mise en place à une confluence entre une rivière et un fleuve puissant, le Rhône. Grâce à sa position au croisement des routes, la cité va donc bénéficier d'un apport économique important. Elle prend aussi une importance stratégique et économique puisqu'en 12, avant notre ère, le sanctuaire des Trois Gaules est créé. Ici aussi, la romanisation est en marche. Ce qui va ajouter à l'importance de Lugdunum, c'est justement la création de ce sanctuaire. Il n'est pas exactement construit sur le territoire de Lugdunum, non, juste à côté, sur un pagus celte. Ainsi, le sanctuaire des Trois Gaules est en théorie sur un site celte et non pas de droit romain. Le sanctuaire est un édifice et une institution de tout premier plan. C'est un outil majeur de la romanisation, puisqu'il est dédié à César Auguste. Quand Drusus, qui est un membre de la famille d'Auguste, crée ce sanctuaire, il est fort probable qu'il cherche à calmer le mécontentement des aristocrates gaulois, fortement irrités par le recensement et les impôts romains. En créant ce sanctuaire, Drusus réactive les conseils aristocratiques celtes réunis par César pendant la guerre des Gaules. D'ailleurs, dans son livre Géographie et au chapitre 4, Strabon évoque ce sanctuaire. Le sanctuaire dédié en commun par tous les Gaulois à César Auguste est bâti en face de la ville, au confluent des deux fleuves. Il y a un autel remarquable portant l'inscription des peuples au nombre de 60, les statues de chacun d'eux, ainsi qu'un grand bois sacré. La description de Strabon, bien qu'incomplète, montre bien que le sanctuaire est une institution de premier plan. Les 60 peuples de la Gaule envoyaient des ambassadeurs ou délégués, magistrats élus, désignés par les peuples eux-mêmes. Leur nombre est inconnu, on les estime entre 100 et 200. Ils se réunissaient chaque année au début du mois d'août. Le choix de la date n'est pas anodin non plus, puisqu'elle correspond à une fête celtique traditionnelle, le Lugnasad, ou la fête de Lug. Or, nous sommes proches de Lugdunum. Au cours des fêtes de Lug, les Celtes avaient donc pour habitude de régler des conflits et de célébrer des unions. Être délégué de son peuple au sanctuaire des Trois Gaules était un honneur suprême pour ceux qui avaient été désignés. Et la fonction la plus prestigieuse était celle de prêtre à l'autel de Rome et d'Auguste. Dans ce début de présentation du sanctuaire, on peut voir un mélange ou un compromis culturel. Le choix du lieu, celte, le choix de la date, celtique, les délégués désignés par les compatriotes locaux. Mais l'objectif initial est bien d'honorer Rome et l'Empire. Ou si vous préférez, l'Empereur. Si l'assemblée est d'abord à vocation religieuse, le sanctuaire des Trois Gaules devient vite un lieu diplomatique, notamment entre les peuples des Trois Gaules. En outre, l'assemblée peut communiquer directement avec l'empereur, sans l'intervention d'un intermédiaire. L'assemblée peut émettre des pétitions, avoir des revendications, surveiller l'action des gouverneurs romains, et elle peut aussi donner son avis sur la répartition des impôts. Donner son avis seulement, hein. Si l'assemblée se réunissait à une date importante du calendrier religieux gaulois, le rituel de l'assemblée montrait clairement une prépondérance de la culture des valeurs romaines. Les solennités religieuses consistaient en sacrifices, processions, jeux, concours et concours de poésie. Vers 19, un amphithéâtre est construit par les membres d'une vieille famille aristocratique gauloise originaire de Saintes. Ils ont financé eux-mêmes, ou du moins en grande partie, la construction de l'édifice, comme d'ailleurs l'indique la dédicace retrouvée en 1957. Pour le salut de Tibère César Auguste, Caius Julius Rufus, citoyen de la cité des Centons, prêtre de Rome et d'Auguste, son fils et son petit-fils ont construit à leurs frais cet amphithéâtre. La dédicace confirme trois choses. Premièrement, l'obtention de la citoyenneté romaine à des aristocrates locaux pour service rendu. Et elle permet aussi à la romanisation de pénétrer les populations locales. Deuxièmement, l'importance, l'honneur d'être prêtre de Rome et d'Auguste n'était pas octroyé à n'importe qui, puisque la famille désignée par la dédicace est d'abord de citoyenneté romaine et qu'elle a surtout une surface financière suffisamment importante pour financer quasiment elle seule la construction d'un édifice de près de 20 000 places. Enfin, dans une assemblée celte du peuple celte, l'édifice de spectacle est certainement le plus représentatif de la culture romaine, l'amphithéâtre, lieu des chasses et des combats de gladiateurs. La romanisation est en marche. Enfin, c'est aussi dans ce sanctuaire qu'étaient explosées les tables claudiennes, discours prononcés en 48 à Lyon et à Rome par l'empereur Claude lui-même d'origine lyonnaise. Ces tables sont une plaque de bronze de 2,50 m en fait, et de pratiquement 2 mètres de large. Dans ce discours, Claude accorde aux chefs des nations gauloises l'éligibilité aux magistratures romaines et surtout au Sénat de Rome. Ces fragments sont conservés au musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon. Le conseil, finalement, cessera son activité entre 250 et 300. Mais la romanisation s'est bien développée, y compris à travers le conseil des Trois Gaules.